Vous êtes avec SBS French.
À la une de l'actualité de ce mardi 22 mars 2022, le crash d'un avion dans le sud-ouest de la Chine. 132 personnes étaient à bord. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. 27e jour de la guerre en Ukraine et au moins 8 personnes sont décédées dans le bombardement d'un centre commercial dans la capitale, Kiev. La Russie affirme avoir attaqué ce bâtiment juste parce qu'il contenait des armes ukrainiennes et ne pas avoir voulu toucher de civils. En marge de cette guerre, l'Union européenne adopte sa nouvelle ligne de défense, plus de moyens, plus d'interventions et surtout plus de sanctions à l'égard de la Russie. En France, le décès d'Yvan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, a succombé après 3 semaines de coma à cause d'une agression en prison. Et enfin du sport, du tennis, avec la victoire de l'Américain Taylor Fritz en finale de l'Indian Wells contre Rafael Nadal. On en parle dans le journal des sports que vous avez préparé, Christophe.
Tout à fait. Et on ouvre ce journal avec le crash impressionnant hier soir d'un avion en Chine.
Oui, un Boeing 737 de la compagnie China Eastern Airlines s'est écrasé dans le sud-ouest du pays, on le disait en titre. Il était parti de la ville de Kunming et devait atterrir 1300 km plus loin à Canton. Mais l'avion a rapidement perdu de l'altitude à 26 000 pieds en seulement 3 minutes. C'est une chute de près de 8 km avant de disparaître totalement des écrans radars. À son bord, 132 personnes, 123 passagers et 9 membres d'équipage. Il y a très peu de chances de trouver des survivants, si ce n'est aucune. Mais le bilan officiel n'a pas encore été annoncé et les recherches sur place se poursuivent.
So far, a rescue team of 120 vehicles and 622 members have arrived at the accident site. The site is ringed on 3 sides by mountains without access to power supply, so the lighting conditions are very poor. The search and rescue work are now in full swing.
Et dans le même temps, les familles de passagers se sont rendues à l'aéroport dans l'attente d'informations, de comprendre ce qu'il s'est passé, sans pour autant garder espoir.
His relatives had very mixed feelings when I broke the news and they were sobbing. His mother didn't believe this had happened. After I confirmed the news to her, she was sobbing. Then she said she will be here as soon as possible because she was very sad. Her boy was only 29 years old.
Voilà donc ce que vous pouvez dire sur ce crash. D'ailleurs, cet accident, une fois que le bilan sera confirmé, pourrait être le plus meurtrier en Chine depuis 1994, où 160 personnes étaient décédées dans le crash d'un Tupolev 154 de la compagnie China Northwest Airlines. Ce mardi 22 février marque le 27e jour de la guerre en Ukraine et les frappes continuent, notamment dans la capitale Kiev.
Au moins 8 personnes sont décédées dans le bombardement d'un centre commercial, une attaque justifiée par la Russie qui assure que le bâtiment était utilisé par l'armée ukrainienne pour stocker des armes.
Live monitoring footage clearly shows a Ukrainian multiple rocket launcher driving into a shopping center on the outskirts of Kyiv for cover, after another salvo and for reloading of missiles. On the night of March 21, a battery of Ukrainian multiple rocket launchers and a storage base for their munition in an idle shopping center were destroyed by high-precision, long-range weapons.
Et c'était les propos traduits donc de Igor Konachenkov, le porte-parole du ministère de la Défense russe. Une attaque qui n'est pas sans conséquences, Marianne.
La capitale résiste tant bien que mal aux attaques répétées. Elle a de nouveau été placée sous couvre-feu au moins jusqu'à demain, et ce depuis hier. Le maire de la ville demande aux habitants de porter des masques pour se protéger des fumées et ne pas ouvrir les fenêtres. Kiev n'est pas la seule ville à être visée de plus belle. Kharkiv, Mariupol, Odessa, Mykolaiv. D'après les autorités ukrainiennes, 1300 soldats auraient été tués côté ukrainien contre 15 000 côté russe, des chiffres qui sont bien sûr pour l'heure impossibles à vérifier. Et en reprenant la sémantique du président américain Joe Biden, eh bien l'Union européenne a qualifié la dévastation de la ville assiégée de Mariupol de, je cite, « crime de guerre majeur ». 350 000 habitants restent toujours bloqués dans les ruines, des ruines jonchées de cadavres. Ils n'ont peu, voire pas de nourriture, d'eau, d'électricité. Et pour ces personnes, il est quasiment impossible de fuir puisque si elles partent évacués, le risque serait trop grand de se faire toucher par une frappe. Dans les autres villes, beaucoup, eux, ont réussi à partir. L'Organisation des Nations Unies parle de 10 millions de réfugiés.
Since February 24th, more than 10 million people have now been forced from their homes in search of safety and security, nearly a quarter of the population of Ukraine. This includes an estimated 6.5 million men, women and children who are internally displaced, and that's according to our friends at the International Organization for Migration, and nearly 3.5 million people, mostly women and children, who have crossed international borders out of Ukraine as refugees.
Et c'était Stéphane Dujarric, porte-parole d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Le conflit en Ukraine, c'est aussi la guerre de l'information en Russie.
Facebook et Instagram viennent d'être officiellement interdits dans le pays, une décision prise par la justice puisque c'est un tribunal de Moscou qui a estimé que ces deux géants des réseaux sociaux menaient des activités extrémistes. On leur reproche d'avoir assoupli leurs règles pour permettre la diffusion de messages violents contre l'armée et contre les dirigeants russes. Les explications de la correspondante à Moscou pour Radio France Internationale, Anissa El-Jabri.
Comme les médias indépendants et comme Twitter, les deux réseaux sociaux étaient déjà bloqués depuis le début du mois. Seuls les titulaires d'un VPN pouvaient y accéder. À la mi-mars, le téléchargement de ces outils a d'ailleurs explosé en Russie, plus 2500%. Précision du parquet, dans la foulée de la décision, les titulaires de comptes Facebook et Instagram, particulièrement populaires en Russie, pourront d'ailleurs continuer à y poster des messages, cela sans être poursuivis pour extrémisme. Le vrai changement, et il est majeur, c'est qu'il ne sera plus possible d'acheter de la publicité. Méthode de rémunération pour les influenceurs ou manière de se faire connaître pour les petits entrepreneurs ou les artistes, l'argent dépensé pour être vu sur ces plateformes sera, avec cette décision, considéré comme du financement de l'extrémisme.
Et c'était Anissa El-Jabri pour RFI. Alors on en parlait juste avant, des 10 millions de réfugiés qui ont fui l'Ukraine, et tout en moins d'un mois. En Australie, ce sont 5000 visas qui ont été accordés, certains en moins de 24 heures.
Des visas qui vont permettre aux Ukrainiens venant en Australie de rester jusqu'à 3 ans sur le territoire, de travailler, d'étudier, d'avoir accès à Medicare, la sécurité sociale australienne. Le gouvernement fédéral a aussi annoncé le déblocage de 30 millions de dollars supplémentaires en aide humanitaire et 21 millions en aide militaire. Des aides et des visas qui font tiquer les défenseurs des droits de l'homme. Bien sûr, c'est une bonne chose, explique Paul Power, le directeur général du Conseil des réfugiés. Mais il faudrait apporter la même réponse rapide et efficace à tous les réfugiés, quelle que soit la crise humanitaire qu'ils fuient.
Because the overall refugee and humanitarian program has been cut substantially, and the 28,000 previously budgeted places have been lost in less than 2 years. It means that it's much less possible for refugees from other parts of the world.
Et c'était donc Paul Power, le directeur général du Conseil des réfugiés. Alors, 2 ans de débats et de travaux, largement d'ailleurs accélérés par la guerre en Ukraine, l'Union européenne vient d'adopter sa nouvelle ligne de défense.
Les 27 ont établi la colonne vertébrale de la défense européenne, la boussole stratégique, comme ils l'appellent. C'est en fait une orientation sur plusieurs années que les Européens veulent mettre en commun pour leur défense. Vous l'avez dit, ça va faire 2 ans que les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne travaillent dessus. Objectif, renforcer la défense, se donner plus de moyens d'intervention et, au vu de la crise actuelle, augmenter les sanctions contre la Russie. Pierre Benazé pour RFI.
Cette boussole stratégique, c'est l'orientation sur plusieurs années de ce que les Européens veulent mettre en commun pour leur défense. Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, évoque un moment quasiment historique avec l'adoption de ce qu'il appelle un guide pour l'action. La mesure la plus tangible est la mise en place d'une force de déploiement rapide de 5000 hommes et à plus long terme, un engagement des 27 à atteindre des dépenses militaires de 2% du produit intérieur brut. Elles sont aujourd'hui à 1,5%, ce qui représente 200 millions d'euros, 4 fois le budget militaire de la Russie, mais moins efficace, selon Josep Borrell. Le chef de la diplomatie européenne souligne que la guerre en Ukraine a provoqué un changement tectonique de l'architecture de la sécurité européenne. Et même si cette boussole stratégique n'est pas qu'une réaction à l'invasion russe, elle s'étend longuement sur la posture de défense de l'Union européenne face à la Russie. Les Européens ont aussi préparé de nouvelles sanctions. Elles seront décidées lors du sommet de jeudi, car la question de l'embargo pétrolier n'est pas résolue. Ils ont aussi doublé les budgets qui permettront d'acheter des armes pour l'Ukraine, désormais 1 milliard d'euros.
Et c'était Pierre Benazé pour RFI. Il est 13h11, retour en Australie maintenant et on parle politique avec un nouveau premier pour le South Australia, Marianne.
Le travailliste Peter Malinauskas prend la tête de l'Australie méridionale, en français, après avoir battu le libéral Stephen Marshall. Stephen Marshall qui est resté 9 ans à la tête de l'État. Le nouveau premier entend directement s'attaquer à la gestion de la crise sanitaire. Pour lui, la lutte contre le Covid a été chaotique, trop irrégulière avec des incohérences, notamment en ce qui concerne la définition des cas contacts, le port du masque, les QR codes. Tout ça, c'était trop différent par rapport aux autres États et territoires australiens, c'est ce qu'il dit. Il aspire à plus de cohérence, on l'écoute.
Look, I'm a new leader. I have an opportunity as the Premier now to fully examine all of the reasons why the policy settings are what they are. If there are good reasons for that, that's fine, but people of our state deserve to know. There is a sense within the community at the moment and a consciousness of the fact that we are different to other states and they need to know why, and I want to communicate that to them as effectively as possible if indeed there is a necessity for its maintenance.
Peter Malinauskas qui vient d'ailleurs déjà d'annoncer de nouveaux changements.
There will be a change to policy and process in respect to COVID management in the state of South Australia under my leadership. I can announce today that the COVID Ready Committee is being abandoned and it is being replaced with a subcommittee of Cabinet. That subcommittee is the Emergency Management Council.
Et c'était donc Peter Malinauskas, le nouveau premier de l'Australie méridionale. Vous avez raison, Marianne, il faut le dire en français. Allez, politique australienne maintenant, et toujours d'ailleurs, et Scott Morrison qui va annoncer un investissement de 60 millions de dollars dans le tourisme.
Le Premier ministre commence à détailler les grandes lignes du budget fédéral et sur ces 60 millions, 45 vont être distribués sur 2 ans afin d'aider les régions impactées par le Covid et le manque de touristes depuis début 2020. L'accent va être mis sur le Queensland avec la Gold Coast, la Sunshine Coast, les Whitsundays, mais aussi sur la Nouvelle-Galles du Sud, la région du Hunter et la Great Ocean Road dans le Victoria.
Et les 15 millions de dollars restants vont spécifiquement être dépensés pour promouvoir la Grande Barrière de Corail dans le Queensland.
La Grande Barrière de Corail, hein, qui d'ailleurs est touchée à 98% par le blanchissement, on le sait, on le répète. Et pourtant, l'Australie est encore pointée du doigt par les Nations Unies en termes de réchauffement climatique, en étant qualifiée, je cite, de récalcitrante. Le secrétaire général Antonio Guterres reproche à Scott Morrison de ne pas renforcer son objectif de réduction des émissions d'ici à 2030.
Allez, pour terminer le journal, on prend la direction de la France où Yvan Colonna est décédé 3 semaines après son agression en prison.
Yvan Colonna ne s'est pas réveillé de son coma dans lequel il était plongé depuis le 2 mars. Condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac, c'était en 1998. Il est mort à l'âge de 61 ans. Retour sur les faits avec Jeanne Richard pour RFI.
Yvan Colonna était dans le coma depuis le 2 mars. Ce jour-là, dans la prison d'Arles, un autre détenu, présenté comme djihadiste, avait tenté de l'étrangler, de l'étouffer. Le militant corse de 61 ans avait été rapidement conduit à l'hôpital. Il n'a finalement pas survécu à ses blessures. Le berger de Cargèse, comme l'avaient surnommé les médias, d'après le nom du village corse où il s'était installé, était une figure de la mouvance indépendantiste de l'île, connue pour avoir participé à l'assassinat du préfet Claude Erignac en février 1998 à Ajaccio, et ses 4 ans de cavale avant son arrestation et sa condamnation après 3 procès à la prison à perpétuité. Il y a 3 semaines, son agression a provoqué une explosion de colère avec des manifestations parfois violentes à travers toute la Corse. Le calme est revenu la semaine dernière après une visite de 3 jours du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a promis d'ouvrir des discussions qui pourraient mener à l'autonomie de l'île.
Et c'était Jeanne Richard pour RFI. Voilà pour l'actualité de ce jeudi 22 mars. Un point sur la météo, Marianne.
Il fait grand soleil et 28 degrés à Perth, 26 à Adélaïde, des averses à Melbourne comptaient 25 degrés, 20 à Hobart, 29 à Canberra, 27 à Sydney. Il fait beau à Brisbane, comptait 30 degrés, 31 à Cairns. Et enfin, les températures les plus élevées aujourd'hui, c'est à Darwin, il fait 33 degrés. Le rappel des titres de ce mardi 22 mars, le crash d'un avion dans le sud-ouest de la Chine, 132 personnes étaient à bord, 27e jour de la guerre en Ukraine et au moins 8 personnes sont décédées dans le bombardement d'un centre commercial dans la capitale Kiev. Et en France, le décès d'Yvan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, a succombé après 3 semaines de coma.
Vous aimez le programme en français ? continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.